Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. En ce mois de mai, on vous propose une émission anniversaire. Le 25 mai 2018, entrait en application le RGPD, le Règlement européen pour la protection des données. 8 ans après, alors que s'affinent les discussions autour des propositions présentées par la Commission européenne le 19 novembre dernier, visant à simplifier plusieurs règlements numériques dont le RGPD, on vous propose de décrypter ces nouveaux enjeux pour nos données personnelles. 2 invités ont accepté de se livrer à l'exercice. Arnaud Latil en studio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence HDR à Sorbonne Université. Vous êtes désormais vice-président intelligence artificielle stratégie prospective. Vous êtes membre du CND et de SKY, le cluster IA de Sorbonne Université. Également auteur de l'ouvrage « Le droit du numérique, une approche par les risques » chez Dalloz, édition 2024. Avec vous à distance, Guillaume Koga, bonjour.
Bonjour Sophie.
Vous êtes délégué à la protection des données, DPO donc, et également responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Editis. Un grand merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Le RGPD, 8 ans après, chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques.
Tu fais attention à la protection de tes données ou pas du tout?
Des fois.
Souvent, elle doit être sur le portable.
Le phishing, c'est quoi?
Une arnaque.
Est-ce que vous vous êtes déjà fait phisher?
Non, jamais.
Vous êtes un poisson furtif?
Un poisson furtif.
Est-ce que vous savez combien de fois par jour vos données sont revendues?
Oh bah, plein de fois, avec tous les appels que je reçois.
Est-ce que l'une connaît le mot de passe de l'autre?
Enfin, moi, je connais tes mots de passe.
C'est une menace, sache-le. Par exemple, vous, votre mot de passe de boîte mail, c'est quoi? Mais faut pas lâcher votre mot de passe comme ça.
Protéger ces données, essentiel en effet, et pourtant, loin d'être un réflexe toujours acquis, comme l'introduit avec humour cette interview, micro-trottoir, spot de sensibilisation du Crédit Agricole. Heureusement, pour nous y aider, il est un texte devenu essentiel en Europe, le RGPD. RGPD, 4 lettres pour Règlement général sur la protection des données, 4 lettres et une notion centrale donc, nos données personnelles. La notion est large, on y reviendra, et s'entend de toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Un nom, un prénom, ou plus indirectement la voix, l'image, un numéro de téléphone, un mot de passe donc, une donnée biométrique, économique, culturelle, et j'en passe. Ce texte réglementaire européen harmonise ainsi les règles de traitement de ces données dans toute l'UE. Il s'inscrit en France dans la continuité de la loi française Informatique et Liberté de 1978, avec plusieurs objectifs. En premier lieu, renforcer les droits des personnes en leur permettant de contrôler la façon dont leurs informations personnelles sont traitées par les entreprises et les organisations. Pour cela, responsabiliser, à l'inverse, les acteurs traitant ces données, c'est-à-dire tout organisme, quelle que soit sa taille, son pays d'implantation et son activité, dès lors qu'elle est établie sur le territoire de l'UE, ou que son activité cible directement des résidents européens. Crédibiliser enfin le tout, c'est-à-dire la régulation, grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection des données en Europe. Bref, la tâche est immense et le RGPD a désormais des répercussions partout dans notre quotidien. Entré en vigueur le 14 avril 2016 et en application le 25 mai 2018, ce texte évolue toutefois depuis dans un paysage numérique en mutation. Il constitue aujourd'hui la pierre angulaire d'un écosystème réglementaire européen beaucoup plus vaste, visant à encadrer le numérique, les données et les plateformes. Parmi ses nouveaux camarades, la directive e-Privacy, le Digital Services Act, DSA, le Digital Markets Act, DMA, le Data Act, la directive NIS 2 ou encore l'IA Act. Depuis son entrée en vigueur, plusieurs critiques sont malgré tout venues ternir le tableau. Si l'objectif du RGPD est incontestablement louable, son application est complexe et les obligations documentaires à la charge des acteurs sont très lourdes. Certaines petites structures supportent notamment des coûts disproportionnés et le sentiment de surréglementation européenne n'arrange rien à l'impression générale. Dans ce contexte, la Commission européenne a mis en discussion en novembre dernier un ensemble de propositions dans un paquet numérique dit « Omnibus numérique ». Un drôle de nom, un cadeau d'anniversaire en réalité en demi-teinte pour le RGPD et ses destinataires, comme l'a souligné il y a quelques jours, le 13 mai, un rapport d'information déposé au Sénat au nom de la Commission des affaires européennes et intitulé « L'omnibus numérique européen, un risque pour la protection des droits numériques des citoyens ». L'heure est donc encore aux réflexions et discussions, mais aussi au décryptage de ces nouveaux enjeux dont on vous parle dans un instant avec nos invités. My Mind des Pixies pour lancer la discussion, sachant que c'est à la recherche des données personnelles que nous allons partir ensemble, Arnaud Latil, Guillaume Koga. On va en effet avoir besoin de vous pour décrypter avec pédagogie ces propositions de la Commission européenne qui, elle-même, s'attaque à des textes pour le moins denses et complexes, dont le RGPD. Alors, pour commencer, un élément de contexte qui s'impose. Arnaud Latil, pourquoi ce nom ? Omnibus numérique, drôle de nom en effet peut-être pour qui n'est pas familier avec. Et dans quel contexte peut-être ces propositions ont-elles été adoptées finalement ?
Très bien, en effet, il faut commencer par là. Omnibus, alors le terme n'est pas forcément évident pour tout le monde. Là, pour commencer, il faut savoir que le droit européen du numérique, c'est un vaste ensemble aujourd'hui. On a parlé du RGPD, mais il y a également d'autres textes, comme vous l'avez dit, le DSA, le DMA, le règlement sur l'IA. Et en fait, l'Omnibus, c'est un texte, c'est même deux propositions de textes qui viennent apporter des modifications, de la rationalisation, de la consolidation. Je pense qu'on pourra y revenir. Et en fait, c'est pas nouveau l'Omnibus. En fait, en réalité, c'est la septième vague de textes omnibus qui ont pour objet, comme le nom l'indique, omnibus, c'est-à-dire d'attraper plusieurs textes pour venir rationaliser un ensemble de législation. Comme vous l'avez dit, le RGPD a 10 ans. Entre-temps, de nombreux textes ont été adoptés, alors en matière de plateforme, de cybersécurité, de données, de manière générale, de données dites industrielles ou de données tout court. Et donc, se posent aujourd'hui des enjeux importants en pratique en termes d'articulation. C'est-à-dire qu'il existe des dispositions qui se chevauchent d'un côté, et puis il y a d'autres dispositions, au contraire, qui peuvent être lacunaires, c'est-à-dire un texte qui s'arrête à un endroit et l'autre reprend un autre endroit, et entre les deux, il y a un gap. Et donc, pour combler ces trous ou pour mieux articuler les dispositions qui se chevauchent, eh bien, Omnibus vient proposer de réformer un ensemble de textes, en particulier le RGPD, mais pas seulement, puisque le règlement sur l'IA, vous savez, c'est ce règlement de 2024 qui régule l'IA à l'échelle européenne. Je pense qu'on pourra en reparler. Et ce texte qui est intéressant, c'est que autant le RGPD a 10 ans, et on peut se dire qu'en 10 ans, le texte peut avoir un peu vieilli, qu'il faut le mettre à jour, que des nouveaux enjeux sont apparus. Pour les règlements sur l'IA, c'est un enjeu différent, puisque le texte de 2024 est entré très partiellement en vigueur, mais pour une grande partie n'est pas encore entré en vigueur. Et Omnibus, justement, va venir, outre quelques dispositions, venir modifier des points, va reporter la date d'application. Alors, le dispositif s'appelle « Stop the clock », « Arrêter l'horloge », c'est le vocabulaire européen. Et donc, l'objectif, elle va être de décaler l'application dans le temps. Donc, en fait, on voit qu'Omnibus, c'est beaucoup de choses à la fois. Et je pense que c'est important de le dire, que ça ne concerne pas que le numérique. Il y a aussi un Omnibus qui existe pour les dispositions en matière environnementale et les règles de conformité environnementale. Et donc, voilà, ce n'est pas nouveau. Et c'est une méthode qui permet, en fait, de faire un ensemble plus cohérent. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion de le redire, mais ce texte, il ne va pas non plus au bout des choses, au sens où le droit européen, même après l'omnibus, alors pour que tout le monde comprenne bien, il y a deux textes omnibus, un général sur le droit du numérique et un autre particulier sur l'IA. Le 6 mai dernier, à l'issue d'un trilogue, la Commission européenne a rendu public le Omnibus sur l'IA. Seulement, l'autre texte demeure en discussion. Donc, on va parler de la proposition qui a été publiée en novembre dernier, comme vous l'avez dit, mais on n'a pas la version définitive. En toute hypothèse, ce qui ressortira après les omnibus, ce ne sera pas un code européen du numérique parfaitement, en tout cas bien articulé à la manière d'un code civil, à la manière même d'un code européen des communications électroniques. Et donc, c'est un pas vers une meilleure... pas harmonisation, mais ensemble cohérent de dispositions en matière de droit européen du numérique.
Effectivement, ces éléments de contexte sont importants pour comprendre après sur quoi on va placer le regard. Donc nous, nos discussions vont se placer sur l'omnibus au plan numérique, mais plus précisément encore sur des aspects donc, propres au RGPD, même si vous l'avez souligné, des points sont déjà tranchés sur l'IA et on viendra compléter les propos avec. Alors si on part finalement de l'objet au centre du RGPD, je l'ai annoncé dans la courte introduction, c'est la question de la notion de données à caractère personnel dont il s'agit. Première idée, la proposition actuelle donc de la Commission entend modifier une chose importante qui est quand même la définition de données à caractère personnel dans le RGPD pour venir y inclure la notion de données anonymisées. Intégrant ainsi un certain nombre d'enseignements tirés de récents arrêts de la CJUE, mais aussi pour écarter des données dites pseudonymisées. Alors là, on a besoin d'un éclairage là-dessus, Arnaud Latil. Le critère de cette distinction anonymisée, pseudonymisée, ça veut dire quoi ?
Ouais. En effet, ce n'est pas évident, mais c'est super important de bien comprendre. Alors la définition de la donnée à caractère personnel dans le cadre du RGPD, c'est toute information se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable. Le cœur du réacteur du sujet, là, c'est identifié ou identifiable. La question, c'est de savoir, entre la personne physique d'un côté et la donnée de l'autre, on peut imaginer qu'il y a un petit trait, un petit lien entre les deux, et la question est de savoir à partir de quand ce trait est coupé. C'est à partir du moment où on ne peut plus retrouver la personne physique qui se cache derrière la donnée dont il est question. Il y a deux moyens de le faire. D'abord, pour couper ce petit trait entre la donnée et la personne, on peut anonymiser la donnée. Alors, l'anonymiser, ça signifie un mécanisme technique qui ne permet pas après de retrouver la personne. Donc une donnée anonymisée, il paraît assez évident que ce n'est plus une donnée à caractère personnel puisqu'elle n'est plus reliée à une personne. Ça, c'est pas tellement débattu. En revanche, ce qui est débattu, c'est la question de la pseudonymisation. La pseudonymisation, ça veut dire que ce lien, il est coupé, mais pas pour tout le monde. Par exemple, une personne peut être détentrice de la donnée, mais elle ne peut pas savoir qui se cache derrière, tandis qu'une autre personne, elle, dispose de ce petit lien et peut retrouver quelle est la personne. Et donc c'est la question importante, puisque pendant longtemps, on a considéré qu'une donnée pseudonymisée était une donnée à caractère personnel, donc pour faire l'objet d'un traitement, il fallait qu'elle entre dans les cases de l'article 6 ou l'article 9 du RGPD, les conditions RGPD classiques. Or, précisément, la pratique, en tout cas, certaines entreprises, organisations, eh bien, trouvent ça beaucoup trop rigide, puisque dans la mesure où une personne qui, elle, ne pourrait pas identifier la personne, eh bien, finalement, pour elle, de son point de vue, la donnée est donc n'est plus à caractère personnel. Pourtant, la CJUE, pendant longtemps, a jugé le contraire, en particulier en matière d'IP dynamique, alors sans rentrer dans le détail, voilà, les adresses IP sont les données à caractère personnel, et même quand elles changent tout le temps, le site web qui recueille la donnée IP dynamique, donc il ne peut pas vraiment savoir tout seul qui se cache derrière, mais en recoupant avec des informations dont il n'a pas la possession, il pourrait savoir. Et pour revenir là-dessus, la CJUE précisément est revenue là-dessus le 4 septembre dernier par un arrêt assez important, où elle a retenu que eh bien, dans la mesure où s'il n'était pas évident de pouvoir réidentifier la personne, eh bien, la donnée n'était pas à caractère personnel. Et c'est en fait c'est cet apport jurisprudentiel du 4 septembre dernier que l'omnibus viendrait confirmer. Et donc dans l'omnibus, il est prévu que dans la mesure où la personne qui dispose d'une donnée pseudonymisée n'est pas en disposition de retrouver la personne qui se cache derrière de manière facile, c'est-à-dire là il faudra apprécier au cas par cas, le degré de facilité pour retrouver qui se cache derrière la donnée, eh bien la donnée serait considérée comme ne relevant pas de la catégorie de la carte personnelle. Donc très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que une personne qui dispose de données à caractère personnel, qui ont été pseudonymisées, s'il ne dispose pas des moyens faciles ou assez évidents de retrouver la personne qui se cache derrière, eh bien, il peut traiter la donnée sans avoir à s'engager dans le cadre réglementaire du RGPD. Donc, alors, certains y voient
une souplesse pour
favoriser l'innovation. Alors, en particulier, même on en reparlera, je pense, en matière d'intelligence artificielle, eh bien, ça permettrait donc de traiter des données pseudonymisées et sans avoir besoin de les anonymiser. Donc ça faciliterait l'entraînement de modèles d'IA ou l'usage de l'IA. Et d'autres considèrent au contraire que c'est une remise en cause des droits et libertés des personnes, puisque eh bien, forcément, en affaiblissant, en cantonnant la définition de la donnée personnelle, forcément, eh bien, on réduit le droit des personnes sur leurs données.
Et on voit ici donc se dessiner la confrontation entre effectivement la souplesse pour les uns et l'atteinte certainement à un équilibre protecteur pour les autres. Guillaume Koga, je rappelle donc que vous êtes délégué à la protection des données. Est-ce que vous voulez réagir sur ce premier point ?
Oui, tout à fait. Moi, effectivement, pour moi, la pseudonymisation des données à caractère personnel, c'est avant tout un outil pour protéger les données à caractère personnel lorsqu'on va mener des traitements à divers endroits de la planète, lorsqu'on va faire appel à des prestataires ou bien des tiers. Donc pour moi, je vois pas bien l'intérêt de ne plus en faire des données à caractère personnel, vu que le but de la pseudonymisation est, pour moi, de manière assez générique dans l'entreprise, un moyen de les protéger. Donc si en les protégeant, on décide qu'elles n'en sont plus, c'est une approche qui est très particulière, en sachant que à partir du moment où nous, on considère qu'on les a pseudonymisées, personne ne pourra retrouver la clé. Je pense qu'à travers différents types de recoupement, à travers d'autres outils, et peut-être des outils que je ne connais pas, des tiers pourraient effectivement être en capacité de retrouver les personnes qui sont derrière. Donc moi, je suis honnêtement très peu favorable à cette évolution-là, même si on peut imaginer que dans une majorité des cas, ça ne sera pas dangereux. Je pense qu'il restera des cas où le danger va revenir dessus. Et puis aussi, de manière globale, je trouvais que les définitions du RGPD était quand même très, très clair, très bien établi en ce qui concerne les données à caractère personnel. Et c'était même devenu un exemple pour le monde entier, c'est-à-dire beaucoup de règlements qui ont eu lieu, notamment au Brésil ou ailleurs, ont repris les modèles qu'il y avait dans le RGPD. Je trouvais que c'était une saine approche. Donc à partir du moment où nous, qui sommes le modèle, on se met à amoindrir la base du règlement, je trouve que c'est pas souhaitable. Maintenant, je pense qu'on pourra s'y adapter, mais à titre personnel, j'aurais préféré qu'on ne modifie pas cet aspect-là.
Vous voulez réagir, Arnaud-Nathalie ?
Oui, je vais peut-être préciser quelque chose qu'on n'a pas encore dit, qui est assez intéressant pour prolonger la discussion sur ce point. C'est que dans la proposition Omnibus, il est également prévu que la question des moyens pour réidentifier les personnes, eh bien, s'entend de moyens techniques. Donc, l'expression, c'est moyen raisonnablement susceptible d'identifier la personne. Bon, on pourra apprécier au cas par cas. Mais ce qui inclut, précise la proposition Omnibus, et je crois que c'est assez intéressant, les interdictions juridiques. C'est-à-dire que les interdictions juridiques sont considérées comme des moyens s'opposant au fait de raisonnablement identifier autrui. Et la proposition cite des textes de loi, par exemple. Mmh. Voilà. Mais aussi, on peut se demander s'il y a un contrat qui interdirait à la personne de réidentifier serait une barrière juridique suffisante pour considérer que retrouver ce lien entre la personne et la donnée, finalement. Donc je crois que c'est un point important. Il y a encore plein de questions à se poser.
En tout cas, effectivement, ça amène un flou là où la définition était initialement, comme l'a dit Guillaume Koga, claire peut-être.
Alors, elle était à la fois claire, mais en même temps, comme je disais, la Cour de justice de l'Union européenne l'a remise en cause le 4 septembre dernier. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'était plus celle d'il y a 10 ans. Elle avait déjà évolué.
Là, on parle des données à caractère personnel. Il y a d'autres notions qui sont abordées dans ce règlement Omnibus numérique. Il y a notamment des données d'une autre sorte, des données non sensibles. La proposition opère ici plutôt une codification au droit constant, c'est-à-dire qu'il va y avoir une codification différente qui conduit à moins de discussions avec un objectif d'harmoniser et d'améliorer la coordination de différents textes entre eux, de supprimer des redondances, comme vous l'évoquiez, Arnaud Latil. Au sens des rapporteurs au Sénat, ça n'appelait pas de réaction particulière. Est-ce que, pour votre part, ce serait la même chose ou vous y voyez quand même un point de vigilance spécifique à avoir ?
Effectivement, ces propositions omnibus, à la fois, ils vont consolider des choses qui relèvent un peu de l'évidence, on peut citer de l'évidence, en tout cas, qui semble de bon sens, en tout cas, on peut par exemple penser au guichet unique, voilà, pour les notifications. Alors, Et encore, c'est évidemment discuté, puisque ça peut enlever du pouvoir aux autorités de régulation nationales, au profit, là, ce serait de l'ENISA, qui deviendrait un guichet unique.
Ça, on va en parler, effectivement.
On va en parler après. Dans d'autres cas, des mesures qui sont plus pro-innovation. Dans d'autres cas, ça va être des mesures qui sont plus pour rationaliser les textes. C'est vrai que c'est un peu difficile, en cet omnibus, de le caractériser par un unique terme. Alors, certains considèrent que ça va être une régression pour la liberté, d'autres favorables à l'innovation. Mais en réalité, c'est un peu plusieurs choses à la fois, et il est difficile d'y voir vraiment un axe extrêmement clair. Dans l'article récent qu'on a publié avec ma collègue Marion Ondac, on parle de simplification d'un côté, de consolidation de l'autre part.
Alors peut-être qu'effectivement, il faut différencier les points de vue, et donc là, on peut aller regarder en fonction des sujets, des acteurs aussi concernés, parce qu'évidemment, selon le point de vue, la compréhension des choses change. Alors pour les entreprises, les ajustements de ce nouveau paquet numérique promettent effectivement une diminution d'un certain nombre de temps, de coûts, enfin, il y a un nombre de tâches administratives qui s'en verraient simplifiées, notamment d'un point de vue mise en conformité, ce qui irait davantage vers l'innovation, vers une favorisation dans cette dimension-là. Si on fait une comparaison entre ces obligations maintenant, telles qu'elles sont aujourd'hui et telles qu'elles seraient à l'issue de cette proposition si c'était adopté en l'État, du point de vue des entreprises, c'est ça.
Effectivement, c'est une très bonne question. Alors, si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde finalement comment le droit européen du numérique traite les organisations, que ce soit entreprises privées ou publiques, on se rend très vite compte en fait que les grandes organisations, les grandes entreprises en particulier, elles peuvent être américaines ou autres, mais les grandes entreprises sont traitées de manière plus stricte que les autres. Ça se voit par exemple dans le DSA, la législation sur les services, puisque les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche
ont un critère en fonction de la taille,
en l'occurrence de l'audience, du nombre d'utilisateurs mensuels qui correspond à 10% de la population européenne. Par exemple, en matière d'IA, ça va être les modèles les plus importants, ceux qui ont nécessité beaucoup de puissance de calcul ou avec d'autres critères qu'on va pas détailler ici. En tout cas, il y a cette idée assez importante que les acteurs qui ont une place importante sur le marché, eh bien, doivent être traités de manière plus stricte que les autres. Et justement, là, l'omnibus avance pas mal de choses, puisque déjà, les PME faisaient déjà l'objet d'exception, d'une charge réglementaire moins lourde dans le RGPD, mais aussi dans le règlement sur l'IA. Et là, en plus des PME, il y a une nouvelle catégorie d'entreprises qui est inclue. En anglais, c'est small mid-cap, c'est donc les petites entreprises de moyenne capitalisation. Alors, la définition est prévue par une résolution de 2025. C'est donc moins de 750 salariés. Bon, il y a d'autres d'autres seuils de chiffre d'affaires et de bénéfices, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais donc, en fait, c'est la catégorie au-dessus en fait des PME, mais avant les grandes entreprises. Et donc ces SMCs, les small mid cap, bénéficieraient de ces dispositions plus favorables pour les PME. Là, on voit clairement un signal important envoyé aux moyennes entreprises qui pourraient la charge réglementaire étant importante, se voit faciliter cette charge réglementaire. Donc ça semble plutôt favorable à l'innovation. Alors le risque évidemment, c'est que ces critères de seuil ont par nature un défaut, c'est qu'on peut être en dessous du seuil et tout de même soulever des problèmes importants. Par exemple, pour ne mentionner qu'un exemple, dans le cadre des plateformes, on a pu voir que des réseaux sociaux ou des plateformes de partage de vidéos, je pense au décès d'un streamer il y a un an et demi, on s'en souvient j'imagine, sur une plateforme qui n'était pas considérée comme une très grande plateforme, et pourtant ouais, le risque c'est de passer sous les radars des services qui serait moins important, mais qui soulève tout de même des dangers pour les personnes, pour la santé, pour la sécurité.
Alors ça, c'était la vue entreprise, en fonction de la taille et des critères que vous évoquez. On peut avoir le même réflexe si on regarde ce qu'en pensent finalement les professionnels de la protection des données. Et là encore, il semble que ce soit une des propositions qui, globalement, sont plutôt favorablement accueillis dans l'idée d'aller créer des méthodologies, des modèles communs pour les analyses d'impact, pour la protection des données, donc les AIPD, qui pour l'instant ne sont pas harmonisées au niveau européen, ce qui va pour l'heure créer des incohérences pour les organismes installés dans plusieurs États membres. Guillaume Koga, pour le coup ici, quelle est votre position sur ce sujet ?
Voilà, pour le coup, moi, je suis très favorable à ça, c'est-à-dire qu'avoir des méthodes communes, avoir aussi des listes de types de traitements sur lesquels on doit mener des AIPD ou pas. Je trouve que c'est une excellente chose, puisque depuis que le règlement était présent, toute cette partie-là était plutôt floue, et surtout à l'appréciation des entreprises et des responsables de traitement. Donc moi, pour cet aspect-là, j'y suis très favorable, parce qu'en fait, on aura enfin un cadre qui nous permettra de décider oui, je le fais, non, je le fais pas, et surtout avec quelle méthode, et ce qui permettra aussi de se comparer avec nos concurrents ou bien avec nos partenaires et d'avoir la même approche, parce qu'un des points problématiques qu'ont les entreprises très régulièrement, notamment celle que j'ai assez facilement, c'est avec les équipes marketing, quand moi je leur demande typiquement de faire les choses en conformité et donc nécessairement à quelques contraintes. La première réaction que j'ai, c'est les concurrents, ils le font pas. Voilà, les concurrents. Alors pourquoi ils le font pas? Il y a plein de raisons derrière ça, mais on peut imaginer que les appréciations sont différentes, ou bien que le choix de prendre le risque ou pas, d'être en conformité ou pas, n'est pas du tout le même. Mais nonobstant, à partir du moment où on va avoir un cadre beaucoup plus précis sur les types de traitements qui doivent avoir une AIPD, comment cette dernière doit être menée. De mon point de vue, ça apportera, je dirais, une saine concurrence, et ça permettra de travailler avec des critères précis, et on pourra échanger beaucoup plus simplement avec les équipes métiers. Donc moi, à titre perso, je suis très favorable à ça.
Et ça, pour le coup,
c'est une vraie avancée.
Ouais, saine concurrence pour vous, donc c'est gage de sécurité juridique. Parce que forcément,
oui, c'est-à-dire qu'on se batte avec les vrais arguments, c'est-à-dire avec les mêmes arguments, et que on puisse échanger sans que l'appréciation de chacun vienne mettre du flou, et quelque part on se retrouve un peu entre deux eaux et qu'on ne sache pas qui finalement va avoir raison si jamais la CNIL vient dire c'est plutôt telle entreprise ou telle autre, et pendant ce temps-là le business sera passé ou on aura eu des soucis business au milieu.
Effectivement, la Commission nationale informatique et liberté qui finalement vient être vigilante vis-à-vis de ce contrôle sur les données personnelles. Parmi les propositions, il y en a d'autres d'un ordre aussi différent. Si on s'intéresse cette fois au sort des particuliers, on a évoqué les entreprises, on a évoqué les professionnels de la donnée. Pour les particuliers, il y a certaines mesures qui sont envisagées et qui visent par exemple à optimiser les modalités d'expression de leur consentement face aux cookies publicitaires. Ça, c'est un autre sujet qui fait souvent débat. Bruxelles suggère notamment de faire en sorte que les bannières des cookies apparaissent moins souvent. Arnaud Latil, qu'est-ce qu'on en pense de ça ?
C'est en effet un des paradoxes de la protection des droits et libertés des personnes. C'est que...
J'ai peut-être rappelé ce qu'est un cookie pour qu'on l'accepte, est-ce qu'on devrait ne pas l'accepter ?
C'est très bien d'en parler, effectivement. Les cookies, ces petits témoins que les éditeurs de sites web posent sur les appareils, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, pour de multiples raisons. Alors, il existe des cookies qui peuvent être installés sans le consentement des personnes, et puis d'autres cookies qui nécessitent d'obtenir le consentement des personnes. Alors, on ne va pas revenir sur la discussion, puisque c'est plus tellement débattu, ça, aujourd'hui. Mais en revanche, ce qui est débattu, c'est précisément le fait que pour les cookies pour lesquels il est nécessaire d'obtenir le consentement donc des internautes, des utilisateurs, eh bien, il faut le demander. Et donc, je crois que tout le monde, aujourd'hui, voit très bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire, vous visitez un site web, vous ouvrez une application, eh bien, on vous demande de consentir au traitement des données. Alors, le plus souvent, on ne lit pas évidemment le détail. Et puis, en plus, les modalités de recueil du consentement, alors même si elles tendent à se normaliser avec des bannières de cookies qui sont de plus en plus normalisées, mais bon, parfois, eh bien, on ne sait pas. D'ailleurs, on a vu des études, Alors, les études que j'ai eues, c'est bien souvent qu'on clique refuser ou accepter. Et bien, dans tous les cas, c'est traité. Alors, en tout cas, il y a des manquements forts derrière. Quoi qu'il en soit, c'est le paradoxe, puisque à la fois, le législateur a donné un pouvoir, on parle d'empouvoirment, empowerment des personnes, en leur donnant le pouvoir d'accepter ou de refuser ces cookies. Mais l'effet paradoxal, c'est que ça sollicite très régulièrement. On parle donc de fatigue du consentement. Tout le monde voit de quoi il s'agit, je pense. Et donc, le projet, ce serait en fait d'inclure ce consentement dans les paramètres du navigateur web. L'idée serait donc que, via le navigateur, vous acceptiez une fois pour toutes, oui ou non, vous acceptez les cookies qui sont donc optionnels, pas les cookies nécessaires, qui ne nécessitent pas de consentement. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Évidemment, le risque, c'est que si on refuse une fois pour toutes, il n'y aura plus de cookies traités. Ça donc, évidemment, les éditeurs de sites web sont évidemment pas très favorables. Ça donnerait beaucoup de pouvoir aux éditeurs de navigateurs, d'un autre côté. En même temps, ça permettrait aussi à l'utilisateur de ne pas avoir à cliquer systématiquement. Et c'est vrai que l'automatisme du clic finalement rend ce consentement comme un acte finalement pas absolument banal et pas au niveau en réalité.
Et au-delà et en complément, en fait, il y a un aspect sanction lié à cette démarche-là. Il y a concrètement un glissement des règles concernant les sanctions entre un texte qui est la directive e-privacy actuellement vers le RGPD. Est-ce qu'il y a une incidence à ce déplacement? Est-ce qu'il y a des points pareillement à garder à l'esprit sur ça, si vous voulez réagir?
Oui, on sait aussi que politiquement, e-privacy, on sait que c'est... Voilà, était dans une impasse. Donc, c'est aussi un moyen de dépasser l'impasse politique liée à la réforme d'e-privacy pour intégrer dans le RGPD des dispositions qui feraient plus consensus. Enfin, je ne suis pas...
Voilà. C'est un double consensus.
Exactement, voilà. Donc, ça...
Une pierre de coup.
Exactement.
Une pierre de coup. Alors, face aux demandes, justement, face aux demandes des particuliers parfois, puisqu'on reste sur l'aspect lié aux particuliers, ces particuliers, ils peuvent aussi accéder à leurs données. Et parfois, avec une systématisation un peu excessive, on peut évoquer donc en lien la question de ce droit d'accès. Et pour l'heure, dans le RGPD, très concrètement à l'article 12, au cinquième paragraphe de l'article, on a la question des demandes comme ça qui seraient infondées ou excessives. Et le projet, c'est ici d'introduire la possibilité de refuser, comme ça, de faire droit à cette demande de droit d'accès lorsqu'elle serait effectuée à des fins autres que la protection des données du demandeur. Donc c'est une introduction qui n'est pas neutre non plus, parce qu'une telle restriction, ça pourrait exclure un certain nombre de finalités de recherche, politique, économique, juridique, autres. Guillaume Koga, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette insertion est opportune, ou est-ce qu'elle est excessive? Quelle est votre position dessus?
Là-dessus, moi, je suis beaucoup plus à l'aise. Pour moi, il y a très peu d'excès. Je traite très régulièrement des demandes d'accès, puisque c'est aussi mon job en tant que DPO. J'en reçois un certain nombre par semaine. Et c'est très rare que je constate des abus. C'est une sur 100, c'est une sur 200. Donc, pour moi, c'est presque un non-sujet. Alors, peut-être que d'autres DPO... ce genre de soucis, mais c'est de manière très, très, très limitée. Ce qui est assez amusant à voir, c'est qu'au début du RGPD, on a eu beaucoup de demandes parce que les particuliers ont voulu tester, ont voulu voir qu'est-ce que c'était pour ceux qui étaient au courant de la chose. Donc, on a eu effectivement des demandes qui n'avaient pas grand sens, ils voulaient juste savoir où ils en étaient. Bon, ok, on a répondu sans... Il y avait un petit peu de nom, mais on a pu répondre. Mais maintenant que le règlement est en place depuis plusieurs années, on constate que ce sont des demandes qui sont légitimes et qui sont raisonnables. Pour la grande, grande majorité. Donc, je dirais que c'est une précision qui est peut-être un petit peu exagérée à mon sens, parce que je ne crois pas que les DPO soient submergés par ce type de demande. Et quelque part, je suis assez content que les particuliers puissent, d'une manière simple, faire droit à ce qu'ils souhaitent sur leurs données à caractère personnel.
Arnaud Latine, la réponse.
Oui, en effet, c'est une disposition qui me semble... assez critiquable, voire même un peu dangereuse, puisque cela a été dit, ça, quantifier le nombre de demandes, c'est assez difficile, mais manifestement, c'est certainement assez peu. De manière générale, l'abus en droit, en général, l'abus est peut-être toujours sanctionné, je veux dire, un abus de droit, c'est vieux comme le droit. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est quand on lit la proposition en détail, eh bien, il y a comme exemple donné de cas d'abus, l'hypothèse où la personne concernée, donc la personne qui demanderait à avoir accès à ces données à caractère personnel, le demanderait à des fins que sa demande soit rejetée afin de pouvoir demander dommages et intérêts. Moi, je trouve l'explication très farfelue, puisque déjà, il est très compliqué de déterminer la motivation, l'intention pour laquelle les personnes demandent à accéder à leurs données. Alors, parfois, c'est pour se constituer des preuves en justice. Très bien, je crois que c'est vraiment ce cas d'usage en fait qui est visé. Mais en même temps, refuser l'accès au motif que la personne entendait demander des dommages intérêts dans l'hypothèse où le responsable de traitement n'aurait pas donné les données, c'est ce qu'on lit, ça me semble assez tarabiscoté et finalement assez inapplicable, puisque finalement l'intention de la personne étant insondable. Et évidemment, on ne peut pas estimer qu'une personne, puisqu'elle agit en justice pour demander des dommages et intérêts, l'a fait de manière abusive par principe, parce que ça n'aurait absolument aucun sens. Donc, je trouve ça assez dangereux et critiquable.
Et de...
complexité de mise en œuvre, inutilité certainement selon la pratique, oui.
Alors le rôle du DPO, puisqu'on va rester maintenant du coup sur le DPO, Guillaume Koga, c'est aussi d'aller protéger ces données en cas de violation lorsqu'il y a des fuites de données. Et la question est tout à fait d'actualité puisque ces derniers mois ont montré que les fuites de données dont les entreprises étaient victimes, dont les particuliers étaient victimes, avaient le vent en poupe. Donc là, les organisations et les acteurs sont chargés de veiller à la protection des données dans le sens où il leur faut faire des signalements en cas de fuite de ces données. C'est aussi pour faciliter, pour simplifier l'exécution de ces obligations de signalement qu'est intervenue la Commission européenne. Tout à l'heure, Arnaud Latil, vous évoquiez déjà la question d'un guichet. On va en reparler parce qu'il y a notamment une proposition qui vise à créer un guichet unique en matière de signalement. Est-ce que Guillaume Koga, vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit et nous dire ce que vous pensez de cette initiative ?
En fait, le guichet unique, c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment à travers les différentes règles et règlements qui sortent, parce qu'il n'y a pas que le RGPD et Omnibus qui sort, mais il y a aussi NIS2 qui va être mis en application et traduit en dans la loi française, ce qu'on attend depuis quelques années, mais qui n'a pas encore été fait, avec l'idée qu'effectivement, il faut notifier la CNIL et le corollaire en termes de cybersécurité, de notifier l'ANSSI. Donc, moi, ce que j'entends dans cette nouveauté, c'est qu'il faudrait tout rassembler sur une seule notification auprès de l'ENISA au niveau européen. Je trouve que c'est peut-être un peu excessif de centraliser à ce point, et notamment au niveau européen. Moi, je pense qu'une centralisation au niveau État par État, ça fait carrément le job, surtout que derrière, chacune des autorités de régulation, que ce soit la CNIL ou d'autres en Europe, sont capables de se partager les informations pour avoir des statistiques globales et de partager éventuellement ce qui se passe au niveau européen. Donc moi, pour ma part, je serais partisan pour une centralisation déjà au niveau français, à travers la CNIL et l'ANSSI en un seul guichet unique, ça me paraîtrait une bonne chose, puisque de toute façon, les deux sujets se parlent et sont directement impactés. Maintenant, aller directement au niveau européen, avec l'inquiétude que moi j'aurais que la procédure devienne complexe, alors qu'aujourd'hui, la procédure CNIL est finalement assez simple à mettre en œuvre, parce que je l'ai déjà mis en œuvre. Et je trouve que voilà, je suis plus attentif à la simplicité, à la réactivité auprès de qui on va déposer la notification, que vraiment monter un étage jusqu'à l'Europe, où moi l'inquiétude que j'aurais, c'est que ça devienne complexe.
Alors, l'étage dont on parle, effectivement, l'ENISA, c'est l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité.
Exactement.
Cette idée de guichet unique, comme vous le dites, elle n'est pas que liée à ces aspects cybersécurité. C'est une proposition qu'on retrouve plus largement pour faciliter les signalements des entreprises et qui vient d'autres actes législatifs. Est-ce que Arnaud Latil, de façon plus large, voulait aussi vous exprimer sur le sujet ?
Oui, c'est vrai, je rejoins ce qui a été dit sur ce guichet unique. Je pense qu'en soi, le guichet unique, alors que ce soit pour les notifications de vulnérabilité, d'incidents, je pense que c'est une bonne chose, puisque la connexion atteinte aux données à caractère personnel et failles de cybersécurité, c'est intimement lié, et comme vous l'avez rappelé en introduction, c'est pratiquement quotidien aujourd'hui, donc c'est effectivement important. Peut-être que je nuancerais, alors à la fois effectivement, il faut être sensible au fait que les procédures de notification au niveau des États membres existent, des pratiques, presque des coutumes sont déjà en place. Il y a aussi une forme de proximité de la CNIL ou de l'ANSSI pour les opérateurs français. Je pense aussi, ça paraît simple, mais je pense que c'est important, la langue, on le fait dans sa propre langue. Si c'est au niveau de l'ENISA pour tout, on peut imaginer quand même, peut-être des guichets linguistiques aussi, mais en tout cas c'est plus loin. Et donc on peut imaginer que pour un certain type de notification, par exemple pour des services vraiment qui sont utilisés dans toute l'Europe, on peut imaginer que c'est favorable d'avoir un guichet unique au niveau européen. Je pense à des très grandes plateformes ou des outils d'IA qui sont massivement utilisés par beaucoup de monde au niveau européen. On peut penser que s'il y a un enjeu au niveau français, et bien ça va aussi concerner les Allemands, les Espagnols, etc. Donc finalement, on saute une étape qui est la coordination entre les autorités nationales pour aller directement au niveau européen, un peu comme la Commission européenne a des pouvoirs plus importants en matière de régulation de l'IA. Donc de ce point de vue-là, ça me semble assez cohérent, mais en revanche, peut-être pour des services à plus petite échelle, effectivement, se couper de l'échelle locale ne me paraît pas une très bonne idée.
Ce changement d'échelle aussi, alors, à mon sens, il y a peut-être deux choses en complément. C'est-à-dire que à faire un point comme ça, un relais interlocuteur, il y a un point de vulnérabilité unique. On parle quand même de failles de données et d'informations sur des fuites de données. Donc déjà, en termes de vulnérabilité, est-ce que centraliser tout sur un point, ce n'est pas accroître d'une certaine façon la vulnérabilité ici?
Vous faites référence au fait que les conditions de cybersécurité de l'ENISA pourraient ne pas être assurées, comme l'ANTS qui s'est fait pirater récemment.
On voit aujourd'hui
je vois pas tellement ce problème-là. C'est plutôt une question de gouvernance. C'est qu'effectivement, en cas de lenteur au niveau de l'ENISA ou en cas de problématique organisationnelle, effectivement, ça ralentirait pour tout le monde. Tandis qu'au niveau national, on peut estimer qu'il peut y avoir évidemment des lenteurs, naturellement, il peut y avoir des dysfonctionnements, mais plus on multiplie les guichets, moins on a de chances d'avoir des dysfonctionnements au niveau national. Donc, effectivement, de ce point de vue-là.
Peut-être sur cet aspect de dysfonctionnement. Et alors, après, finalement, c'est aussi, si on part sur cette idée, conduire les États à perdre d'une certaine façon un espèce de droit de filtre dans les informations données à cette agence européenne, c'est-à-dire que des informations sur des failles de cybersécurité au niveau national seraient données à une échelle plus grande.
Effectivement, mais je crois que c'est vraiment... Enfin, à la fois, c'est une souveraineté, en fait. Effectivement, c'est une condition que les États puissent réguler, encadrer les fuites de données au niveau national. Mais je crois qu'il ne faut vraiment pas négliger le niveau européen, puisque on constate en particulier que les cyberattaques fonctionnent beaucoup à travers la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de valeur. Et donc, ça va être par exemple un fournisseur qui se trouve en Italie, qui va être l'objet d'une cyberattaque et qui va concerner qui va pouvoir remonter vers un prestataire qui est en France, par exemple. Donc, il y a évidemment, et puis quand des hôpitaux, des universités, en ce moment des agences de voyage font l'objet de cyberattaques en France, on peut se douter que la même chose se produit dans les autres pays, puisqu'il n'y a pas de raison que les cyberattaquants aient une politique, si on peut dire, criminelle qui soit différente suivant les États membres. Donc, la coordination, comme est en train de le mettre en place l'Union européenne, ou la met en place avec, on l'a cité, NIS 2, mais aussi le CRA, le CSA, DORA, plein d'acronymes, pardonnez-moi, en matière de cybersécurité. Donc, c'est des textes qui visent à offrir une sécurité à l'échelle européenne. Et je crois que l'échelle européenne, c'est la bonne échelle, mais sans se couper de non plus l'échelon national.
Peut-être sur cette question, le dernier point, Guillaume Koga, que vous évoquiez dans le process, c'est qu'on a aussi un allongement du délai légal qui est prévu pour venir notifier cela auprès de l'autorité de contrôle, puisque ce délai qui est de 72 heures se passerait à 96 heures, l'augmentation du délai. Qu'en pensez-vous ? On est sur une même dynamique finalement ?
Oui, c'est bien, c'est globalement bien, ça ne va pas changer la face du monde de mon point de vue, parce que lorsque vous faites une notification dans les 72 heures, en général, vous avez très peu d'éléments techniques et pertinents sur l'exactitude de ce qui s'est passé. Souvent, c'est une première notification que vous faites avec les bases, juste que vous savez qu'il vous arrive quelque chose, vous avez une idée à peu près approximative de ce qui vous arrive et vous commencez à ce moment-là. Vous êtes en train de faire votre analyse et bien entendu, elle n'est pas terminée. Donc souvent, on se dépêche de rentrer dans les 72 heures pour faire cette première notification, pour être dans les temps et être conforme, tout en sachant que la vraie notification, enfin celle que moi j'appelle la vraie, qui viendra plus tard, qui sera la notification complémentaire, elle va contenir tous les éléments techniques et pertinents sur lesquels on a besoin de travailler avec un certain délai. Et là, le délai, il est ouvert, vu que le délai court pour la première notification, pas pour la notification complémentaire. Donc oui, je trouve que c'est une bonne chose, mais ça va pas changer ma vie dans le sens où 72 heures ou 96 heures pour la première notification, ça nous permettra juste d'être un peu plus détendu lorsque une crise nous tombe dessus. Ça, c'est une très bonne chose, mais ça va pas tout changer du fait que la notification est quand même en deux fois. La plupart du temps, se fait en deux fois parce qu'en 72 heures ou en 96, on n'a pas le temps d'être précis sur tous les détails et de bien connaître le fondement de l'attaque et de la manière dont elle s'est passée avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Donc voilà, c'est bien, mais ça va pas changer la face du monde.
Alors peut-être pour terminer cet échange sur un point qu'on n'aurait pas encore abordé, pour reprendre quelque chose que vous aviez commencé à citer tout à l'heure, Arnaud Latil, la question de la réutilisation des données. On a parlé de l'IA, on va en reparler, il y a d'autres cadres dans la réutilisation de ces données. Et on peut en reparler parce qu'il y a certaines exceptions qui sont introduites par la proposition pour venir assouplir un cadre de réutilisation. Il y a deux exemples peut-être qu'on peut essayer de commenter ensemble. Il y a une évolution de la logique de l'article 22 du RGPD qui porte sur la décision individuelle automatisée. Je vous laisserai revenir sur l'aspect un peu technique des choses. L'idée serait de passer d'un principe d'interdiction pour l'instant de choses-là, à quelque chose assorti de certaines dérogations pour venir progressivement l'autoriser un peu plus. Concrètement, les cas d'utilisation de ça dans des conditions qui sont ouvertes, est-ce que c'est assez encadré pour être sûr? On parlait de sécurité juridique, qu'est-ce qu'on peut faire de cet assouplissement?
Alors justement, là, c'est un point alors, à la fois technique, mais extrêmement important. On parle de l'article 22 du RGPD. Mmh. Alors, ce n'est pas une interdiction hein, de traiter.
Non, ce n'est pas une interdiction.
C'est un droit accordé aux personnes de ne pas faire l'objet de décisions individuelles automatiques. Et en fait, la proposition Omnibus, en fait, va dans ce sens-là, et on peut lire très concrètement que ce n'est pas une remise en cause, parce qu'il n'y a pas d'interdiction qui est remise en cause, c'est pas un changement de principe, mais c'est plutôt, en fait, la proposition Omnibus propose de relire une lecture des origines, notamment à la lumière du considérant 16 du RGPD, en disant que finalement, ce n'est qu'un droit, et un droit qui connaît des exceptions. Et en particulier, le point sur lequel insiste Omnibus, c'est qu'il y a une exception en matière contractuelle. Lorsque ces décisions individuelles automatisées sont prises en vertu d'un sont nécessaires en vertu de l'exécution pour l'exécution d'un contrat. Et c'est ce critère de nécessité qui est discuté, puisque on se demandait qu'est-ce que ça veut dire nécessité. Est-ce que c'est une nécessité absolue? Est-ce que, en particulier, est-ce que on ne peut pas faire autrement? Est-ce que la personne ne peut pas, parce que le responsable de traitement ne peut pas faire autrement que de traiter de manière automatisée? Et bien justement, précisément, là, l'omnibus retient une conception qui est plutôt large, parce que le nécessaire ne s'entend pas comme une considération technique, une impossibilité technique. Il est écrit que même une situation où des décisions humaines, donc prises sans l'aide de la machine, pour le dire rapidement, sont possibles, eh bien, cela peut constituer tout de même une nécessité. Donc la nécessité, vraiment, est ici appréhendée de manière assez large et souple pour permettre précisément de recourir le plus souvent, ou plutôt, pour être exact, pour que les personnes ne puissent pas s'opposer ou puissent moins s'opposer à ce qu'elles fassent l'objet d'une décision automatisée.
Et dans cette finesse textuelle, alors là, pour le coup, on peut parler d'interdiction qui était jusqu'alors dans l'idée de venir interdire le traitement de données sensibles. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Non,
dans la question de l'interdiction, pour l'heure, du traitement de données sensibles, là, on a deux nouvelles exceptions qui viendraient ici assouplir les choses. L'une, dans le cas du recours à des systèmes d'IA, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Une autre pour le contrôle de l'identité d'une personne. La façon dont la proposition envisage l'insertion de ces exceptions, qu'est-ce que vous pouvez...
Il y a aussi un troisième point pour la recherche, mais effectivement,
pour la
c'est
recherche
ça.
Aussi,
effectivement, oui. ça c'est peut-être les points qui sont les plus importants, et je pense qu'ils vont être débattus puisque c'est extrêmement important. C'est l'ajout d'une nouvelle base légale, ou plutôt la précision d'une base légale. Vous savez, l'article 6 du RGPD autorise le traitement de la carte personnelle si l'une des bases légales, si la personne peut se fonder sur une des bases légales. Et là, l'intérêt légitime du responsable de traitement, alors c'est qui fait l'objet d'une jurisprudence, de plein de choses dans lesquelles on ne va pas rentrer, mais l'IA pourrait rentrer là-dedans. Alors justement, là, ce serait extrêmement important, puisque ça signifierait que dès lors que l'on entraîne un modèle, qu'on fait un système d'IA, eh bien finalement, on pourrait traiter des données à caractère personnel, ce serait une base égale de traitement. Donc ce serait extrêmement important. Alors c'est évidemment très favorable à l'innovation, à l'économie. Et puis le pendant existerait en matière d'article 9. Donc là, c'est vous savez, pour les données spécialement protégées, les données plus sensibles, où là, le principe est inverse. Le principe, c'est l'interdiction de traitement, sauf si l'une des exceptions est rencontrée. Et là, il y aurait donc une nouvelle exception, un peu jumelle par rapport à l'article 6 ici, sur l'IA. Donc là, c'est effectivement des points qui sont extrêmement importants. Et on voit à la fois à travers l'article 22 précisé, à travers cette notion de contrat et à travers ces éléments article 6, article 9, une volonté en fait d'ouvrir les vannes au traitement de données à caractère personnel pour l'entraînement de modèles et pour le déploiement de systèmes d'IA. Là, c'est effectivement un point extrêmement important.
Guillaume Koga, est-ce que vous voulez réagir sur ces élargissements significatifs ?
Je pense pas que vous en dire beaucoup de choses parce que je trouve que les concepts sont encore un peu flous. Mmh. Je pense que dans ma qualité de DPO, je suis pas encore prêt à les intégrer parce que c'est trop flou. Je les intégrerai pas. Ça m'inquiète un petit peu parce qu'effectivement, si on ouvre à l'IA avec des exceptions qui sont mal calibrées, on risque d'avoir des débordements. Donc j'espère juste que le texte final va cadrer les exceptions pour qu'il n'y ait pas des exceptions qui deviennent la règle, sachant qu'en IA, il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont prêts à récupérer autant de données que possible pour avoir les modèles les plus efficaces possibles. Donc, le seul point de vue que j'aurais, c'est que cette ouverture, si elle se fasse, et je pense qu'elle peut avoir du sens, elle soit tout de même bien cadrée, de manière à éviter les débordements qui risquent d'arriver.
Effectivement, il y aura encore de nombreux points à aborder, peut-être plus propres à l'encadrement des usages de l'IA. Certains ont déjà donc fait l'objet d'un accord. Là, le 6 mai, la nécessité d'interdire certains usages d'IA risquant de porter atteinte à la dignité humaine, notamment aussi des contenus générés ou manipulés par l'IA à caractère pédocriminel, en complément des contenus de nudification qui se voient interdits par le texte récemment adopté. Il y a des choses encore à ouvrir au plan de l'IA en plus de ce qui a déjà été adopté. Pour ça, on aura sûrement l'occasion d'en faire une émission en tant que telle sur l'IA. Pour terminer, juste en ouverture, reprendre une idée que vous avez lancée en introduction tout à l'heure, Arnaud Latil, vous plaidez en faveur d'une harmonisation textuelle en fait, qui prendrait une forme encore différente, celle d'un code européen qui viendrait plus que cet omnibus rassemblé, tout ça harmonisé de façon plus lisible encore. Quel serait l'apport de ça ?
Bah oui, on peut en effet en rêver. Alors évidemment, on n'y est pas encore, hein, parce qu'on voit se dessiner le RGPD pour les données à caractère personnel, le Data Act pour les données qui ne sont pas à caractère personnel. Alors pourtant, ils relèvent de logiques très très différentes. Donc déjà, il faudrait harmoniser leurs logiques. L'un fondé sur la protection des droits et libertés des personnes, l'autre fondé sur la sécurité des produits. Le règlement sur l'IA, qui est plutôt un texte produit, mais qui contient aussi des dispositions en matière de droits et libertés des personnes. Donc, il y a quand même des points communs là-dedans, et on pourrait imaginer un code avec des dispositions générales. Peut-être que la déclaration des droits et des libertés du numérique de l'Union européenne pourrait être une forme de préambule, comme pour la Constitution française, des droits et libertés des personnes dans le monde numérique, et puis après, une déclinaison dans les différents domaines. On n'y est clairement pas encore, mais je crois que la pratique a un besoin de compréhension, de vue générale, d'articulation de toutes ces questions qui évidemment se recoupent. On a commencé effectivement à parler de ça au début, les entrelacements, les points morts, tout ça, un code permettrait d'y voir beaucoup plus clair en effet.
Bon, à ce moment-là, Guillaume Koga, on vous ferait réintervenir sur la mise en application de ça, le temps de digérer cet ensemble textuel.
Effectivement, je suis un grand fan des textes définitifs. J'ai beaucoup plus de mal avec les textes intermédiaires.
Bon, merci à vous deux pour cet échange merci et ce partage.
Merci à vous. Them.
Sweet Dreams, version d'Emily Browning pour terminer cet échange, en réfléchissant encore un peu aux enjeux de l'exploitation des données et des traces qu'on laisse en ligne. Pour ça, Arnaud Latil, Guillaume Koga, je vais vous soumettre un texte assez ancien désormais, de la philosophe Simone Veil, qui est issu de L'Enracinement, prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain. L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Alors à première vue, rien ne relie ce texte de 1943 aux cookies, aux algorithmes, aux plateformes numériques. Pourtant, la question n'est-elle finalement pas un peu la même ? Nos données numériques racontent désormais nos appartenances, nos habitudes, nos relations, parfois même notre identité sociale et intime. Autrement dit, elle touche à ce que Simone Veil appelle ici nos racines. Que reste-t-il finalement de cette liberté, de notre liberté, quand nos données circulent partout ? Est-ce que vous voulez réagir à ça, Arnaud Latil?
Je veux bien réagir à ça. Effectivement, c'est très intéressant, ces questions des racines, de racinement. Je crois qu'un des problèmes, un des enjeux importants aujourd'hui, c'est faire société. Alors, c'est vrai au niveau français, c'est vrai au niveau européen. Comment faire société? Comment avoir une ambition commune? Et ça, c'est un point important. Alors, moi, je vais citer une autre philosophe contemporaine, cette fois-ci, Céline Spector, qui voit dans l'environnement un des moyens de faire société au niveau européen. Peut-être que les enjeux numériques, en particulier, l'approche que l'Europe propose de l'IA et à travers l'IA également de la régulation des plateformes, et je pense aussi à la question de la désinformation ou de la sécurité de l'information, ça peut être aussi une cause commune, c'est-à-dire une démocratie européenne qui est à la fois attentive aux droits et libertés des personnes, qui lutte contre la désinformation. Je pense que c'est des points extrêmement importants et qui peuvent être une cause commune à côté de l'environnement, en effet.
Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Arnaud Latil, maître de conférence HDR à Sorbonne Université, vice-président intelligence artificielle stratégie prospective, également membre du CND de Sky, le cluster IA de Sorbonne Université. Avec lui, Guillaume Koga, délégué à la protection des données et RSSI chez Editis. Une émission enregistrée avec l'aide de Léobardo Arango. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.